Vous êtes bien sur Choc FM 105.1 avec Kitry Hervouet. Aujourd'hui, je reçois au Salon du Livre René Bonnière pour son livre Le Miracle de la Chasse-Galerie. René, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous, René?
Mais ça va très bien, ma chère Kitry.
Exactement, Kitry. Oui. Alors, j'ai vu que vous êtes réalisateur, vous avez écrit également deux livres, c'est votre deuxième livre.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire?
Si j'ai écrit, c'est que plus personne ne voulait me faire tourner des films. Et alors, il a fallu que je trouve autre chose. Mais j'avais toujours écrit, mais j'écris baillé, vous savez. Je me retrouvais tout seul dans un coin, je savais pas quoi faire. J'écrivais quelques petits trucs et puis dans... Vous savez, quand on tourne, le soir à l'hôtel, très souvent on est seul, j'écrivais un peu, etc. Mais une fois que j'ai su officiellement que je ne pouvais plus faire de film, alors je me suis mis à écrire sérieusement. Et si j'ai quitté le cinéma, c'est à cause des assurances. Ils ont découvert mon âge. Et oui.
Et ils ne voulaient plus vous assurer pour...
Ils ne voulaient plus m'assurer, c'est que un réalisateur de film, quelquefois on a la responsabilité de 3, 4, 5, 10 millions de dollars. Par conséquent, le producteur doit s'assurer au cas où le réalisateur tombe malade. Et alors quelque part, un bureaucrate de la compagnie d'assurance a découvert mon âge. Il a dit, on ne peut plus l'assurer, c'est fini. Et du jour au lendemain, j'ai dû mettre fin à ma carrière de cinéaste. Du jour au lendemain.
Et c'était il y a combien de temps?
Ça fait une dizaine d'années.
Vous avez commencé à écrire suite à ça, mais vous me disiez que vous écrivaillez avant. Mais est-ce que vous avez écrit, par exemple, des scénarios de films?
J'ai écrit des scénarios de films, mais aucun n'a été tourné.
Donc en fait, vous étiez purement réalisateur, mais
J'étais purement réalisateur, oui. Et alors, une fois que j'ai su que je ne pouvais plus réaliser, je suis allé dans des grandes boîtes en carton où j'avais mis tout ça pêle-mêle, tout ce que j'écrivais pêle-mêle, et puis j'ai commencé à ressortir, à déchirer, à mettre au feu, et puis voilà. Et finalement, j'ai pu sortir... Deux histoires qui sont maintenant éditées et j'en ai quatre autres sur le feu, je passe d'une main à l'autre.
Vous mettez combien de temps à écrire un livre?
Entre 50 et 60 ans.
Donc deux livres, vous mettez environ 100 ans?
Non mais on ne peut pas dire, ça prend du temps. Est-ce qu'on prenait, on vit une chose, on l'oublie, ça revient à l'esprit, mais pour faire un livre, il faut ses souvenirs. Et alors, on peut dire que, ou bien vous prenez le moment où je prends le computer et je commence à écrire, ou bien vous prenez ce qui est vraiment important, c'est-à-dire l'inspiration. Et l'inspiration pour chacun, ce sont des événements dans votre vie. Vous avez peut-être commencé à écrire le chef-d'œuvre que vous publierez dans quelques années. Voilà, c'est ça. Et puis, mais sans rire, le miracle de Chasse-Galerie, c'est pas 60 ans que ça m'a pris. Ça m'a pris à peu près, ça m'a pris seulement 30 ans. Vous savez, parce que je ne connaissais pas la Chasse-Galerie.
Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus pour que les auditeurs comprennent
D'accord.
exactement ce que c'est?
D'accord. Alors, je vais vous dire comment je l'ai découvert. Mon fils, on avait un fils, il avait une gardienne, et le fils de cette gardienne travaillait dans une boutique à Ottawa qui s'appelait la Chasse-Galerie. Alors je lui dis, qu'est-ce que c'est la Chasse-Galerie? Alors elle me dit, je ne sais pas. Je demande au fils, il me dit, je ne sais pas. Alors j'ai cherché, et la Chasse-Galerie, c'est peut-être la légende la plus authentique du Canada. C'est inspiré par l'histoire des coureurs de bois. Vous savez, ceux qui faisaient le trafic, qui allaient rencontrer les Indiens, les Amérindiens maintenant, à l'ouest des Grands Lacs. C'était un voyage qui prenait à peu près 18 mois. 6 mois pour y aller, 6 mois d'hiver où il ne pouvait rien faire et 6 mois de retour. Et dans ce voyage, prenait 6 mois. Les coureurs de bois n'étaient pas ces sauvages dont on parle. En fait, ils avaient une famille. Très souvent, ils avaient une famille, des enfants. Et c'était long, c'était un long voyage. Il fallait... C'était très dur. Et alors, la légende dit qu'en route, ils pouvaient rencontrer le diable. Un diable très gentil, qui leur disait, mais écoutez, si vous voulez, vous pouvez retourner chez vous cette nuit. Montez dans votre canot, attendez, il faut une pleine lune. Attendez la prochaine pleine lune, montez dans votre canot, et je vous ramène en l'espace de quelques secondes chez vous. Et pourtant, ça vous a pris 6 mois à vironner. C'est tentant. Et il dit, les conditions, c'est très simple. Il ne faut pas jurer. Hein. Il ne faut pas endommager une église ou quelque chose qui appartient au clergé. Il faut être de retour au travail le lendemain matin. Il faut pas boire. Hein, pas d'alcool. Et à part ça, ben, vous passez la nuit avec vous. Ce que vous aimez. Mais si vous faites ça, si vous n'obéissez pas aux 4 conditions que je vous ai données, ben vous m'appartenez.
Eh bien, dis donc.
Pour l'éternité. Alors, en discutant bien, enfin, ce que demandait ce diable, c'est guère plus que ce que demandaient les curés. Alors, il y en a beaucoup qui se laissaient prendre. Et voilà, il y en avait certains qui s'échappaient, mais beaucoup se laissaient prendre. Voilà, alors, j'étais intéressé par cette histoire. Il n'y a qu'une chose que je n'aimais pas, pour écrire, quand j'ai essayé d'écrire, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et je me dis, qu'est-ce qui ne marche pas ? Alors, j'étudie ça et dis, c'est très simple. Ce qui ne marche pas, c'est que cette personnalité du diable, parce que le diable est représenté comme un monstre. Regardez les tympans d'église. Il est épouvantable, il est laid, et il paraît qu'il sent pas bon, hein, mais pas bon du tout. Il y a un tas de choses. Donc, ça va pas. Je vois pas pourquoi c'est brave. Nos braves ancêtres, là, allaient discuter avec ce monstre. Donc, dans mon idée, aussitôt, je me dis, ce diable, finalement, ne peut être que la chose qu'ils aiment le plus. Vous comprenez ?
Oui, je comprends, oui.
Pour pouvoir lui parler. Finalement, c'est une histoire d'amour. Vous comprenez ? D'ailleurs, il n'y a que les histoires d'amour qui m'intéressent. Alors, aussitôt, j'ai pu faire une histoire d'amour de ça. La diablesse, ça n'est plus un diable, c'est une diablesse.
Il est transformé en femme.
Elle est totalement irrésistible. C'est la diablesse que n'importe qui voudrait rencontrer, n'est-ce pas ? Et pour ce diable, dans cette histoire, cette diablesse est la fille du roi telle qu'il... Vous savez, les filles du roi qui étaient envoyées par le roi Louis XIV pour être les épouses des... Donc, mon héros, c'est un ancien soldat. Quand la guerre a été finie avec les Iroquois, jamais personne n'avait prévu qu'ils allaient retourner en France. Et alors le roi, pour s'en tirer, leur a offert un lopin de terre et plus 100 livres pour l'aider à construire sa maison. Voilà. Et une fois qu'il avait fait ça, le bon roi Soleil s'est dit quand même, j'exagère, ces pauvres gens, ils doivent être bien seuls. Alors il a inventé les filles du roi, c'est-à-dire qu'on envoyait des femmes, des filles, à Québec. Évidemment, les Anglais disent qu'ils avaient ramassé ces filles dans les quartiers malfamés de Paris, ou d'ailleurs, par conséquent, c'était des putains. C'est pas vrai. C'est pas vrai, jamais le roi Soleil, et puis surtout les cardinaux aurait accepté de faire cela. Et il fallait garder la colonie assez pure. Autrement, ça ne marchait pas. Ça aurait été... Et donc, ces filles du roi, et d'ailleurs, j'ai vérifié ça dans un autre livre, c'était les demoiselles, les bâtardes des seigneurs.
D'accord.
Les seigneurs avaient des bâtardes. Évidemment, ils en faisaient à foison des enfants, ces nobles. Et alors, elles se retrouvaient dans des orphelinats. Ça n'existait pas, l'orphelinat, à l'époque, mais dans des maisons où on les gardait. Donc, c'était des jeunes filles de grandes familles, finalement, ce qui fait que les Québécois peuvent s'enorgueillir que leur grand-mère, c'était des comtesses.
Tant mieux.
C'était des gens de la noblesse, finalement. Et elles l'ont prouvé. Parce qu'elles se sont trouvées dans des situations très difficiles. Ma foi, ce qu'elles ont fait, c'est pas mal. Alors ça c'est la chasse-galerie. Donc, c'est la rencontre du diable. Et j'en ai fait une diablesse parce que je voulais une histoire d'amour.
Et est-ce que vous pourriez me parler un peu de votre parcours cinématographique? Parce que votre parcours en tant qu'auteur est plus récent. Mais ce qui a quand même jalonné toute votre vie, c'est plutôt le cinéma, la réalisation. Pourquoi la réalisation?
C'est l'éternelle question, et pourquoi pas? Non, c'est vrai. J'étais attiré par ce genre. Je n'aurais jamais pu être acteur. Remarquez, peut-être que j'aurais pu, mais ça ne me tentait pas. Ce qui me tentait, c'était cette création au niveau du film. N'est-ce pas? J'ai fait d'autres études avant, mais aussitôt que ces études ont été terminées, je les ai oubliées. Je ne voulais plus en entendre parler. J'étais un diplômé d'une école supérieure de commerce, très jeune. Avant mon service militaire, à 19 ans, j'étais diplômé, n'est-ce pas?
Ah, et bien!
À 19 ans, j'étais diplômé, oui. J'étais major de ma promotion. C'est pas mal. Mais ça ne me plaisait pas. Je ne me voyais pas toute ma vie
Dans un bureau, peut-être?
Hein?
Dans un bureau avec...
Non, je ne me voyais pas dans un bureau. Et ça ne m'intéressait pas. Et puis alors, j'ai appris que dans cette affaire, c'était assez militaire, finalement. Et il y a une discipline presque militaire. On appelle ça des barons d'entreprise. On appelle ça des chevaliers d'entreprise. Les affaires, ce sont des... Enfin, bref, c'est un peu militaire. Et ça ne me plaisait pas. Et je n'y comprenais rien, finalement. C'est pas parce que j'ai un diplôme que je comprenais. Un diplôme, c'est rien du tout, finalement. Mais le cinéma, s'il y avait ce côté mystérieux qui m'attirait, et je considérais que c'était l'art du XXe siècle. Et c'était mes grandes admirations. Entre nous, je considère Chaplin comme l'égal de Molière. C'est pas un genre inférieur. Et alors, j'ai essayé, et c'était très difficile à pénétrer. Ce qui est incroyable, c'est que lorsque j'ai fait mon service militaire, j'ai eu une chance extraordinaire. Le commandant du bataillon, j'étais chez les chasseurs alpins et on était en occupation en Autriche. C'était en 1949, en 1948, donc on était en occupation en Autriche. Et alors, ce commandant avait une idée, parce que à la fin de l'année, on allait avoir une grande cérémonie à Vienne avec toutes les troupes. Et il a eu l'idée de faire un film, de donner un film à quelqu'un du régiment, une recrue du régiment, sans supervision, pour faire un film sur la vie d'une année. Il m'a demandé si j'en étais capable. Je lui ai dit, mais bien sûr, mon commandant, je me suis mis au garde à vous. Et puis, je lui ai dit, mais bien sûr, et on peut faire un très bon film avec ça. Je n'avais jamais pris une photo de ma vie. Mais il m'a envoyé à Grenoble. On m'a donné une caméra, enfin on a donné au bataillon une caméra. J'ai appris à m'en servir, pendant une année j'ai fait un film. Et ce film, c'est la base de tout ce que j'ai fait dans ma vie, au point de vue cinéma. C'est-à-dire, je me suis aperçu que le meilleur cinéma ne se dirigeait pas. Donc c'était les bases du cinéma vérité. Et après, quand j'ai fait des films au Canada, j'ai participé au mouvement du cinéma vérité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais j'étais le réalisateur avec Perrault de la série Au pays de nos France. Une série qui a eu beaucoup d'importance. Donc, j'ai travaillé pendant une année sur cette série en collaboration avec Perrault. Perrault qui trouvait les sujets, on discutait comment, etc. Et puis ensuite, j'ai fait le montage, entièrement le montage. Ça a été la grande aventure de ma vie, ça. Et avec des résultats qui étaient bons, qui étaient très très bons. Et c'était vraiment du cinéma vérité, c'est-à-dire que pendant une année, je n'ai pas donné une direction. Je n'ai jamais dit, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. J'arrivais avec ma caméra, je mettais... J'étais prêt à tourner, il me disait « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Ça provoquait une réaction, et finalement il s'habituait à nous, il ne nous voyait plus. C'est ça qui était important. Et alors, même quand j'ai fait de la réalisation avec des acteurs de Hollywood et tout ça, avec de grands noms, très souvent ils me demandaient « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Je dis « je sais pas ». Le réalisateur qui dit « je ne sais pas », ça donne confiance. Et ça donnait de bons films. Enfin, ça marchait bien, quoi. C'est ça le cinéma. Et j'aurais bien continué, j'avais des projets de films, il y a beaucoup de films que je n'ai pas fait, que je voulais faire. D'ailleurs, La Chasse-Galerie, je voulais le tourner en film, mais je n'ai jamais eu l'occasion, alors j'ai décidé d'en faire un livre.
René Bonnière, merci beaucoup. Votre livre « Le miracle de la chasse-galerie » est paru aux éditions du Greffe et vous êtes également réalisateur de plus de 300 films. René, merci beaucoup pour cette entrevue.
Je vous remercie. Et puis, on se reverra, j'espère. Voilà.
J'en suis sûre, René.
Bon, tant mieux.
Vous étiez bien sur Choc FM 105.1 avec Kitry Hervouette.